monsieur.
On ne résiste pas au sourire des anges. On se laisse entraîner par ce qui est beau, charmant, adorable. Je ne suis qu'un pauvre misérable.
Oh, vous êtes bon.
Non, je vous aime, voilà tout. Vous n'en doutez pas. Dites-le-moi. Un mot, un seul mot.
Ça peut pas faire de mal.
Bonjour, docteur.
C'est un plaisir de vous voir, monsieur Boulanger.
Madame m'entretenait sa santé.
Oui, je crains toujours que ces oppressions ne la reprennent.
Je me demandais si l'exercice du cheval ne serait pas bon.
Mais oui. Excellent. Voilà une idée.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Je pense comme vous, madame, que la mollesse du lit, lorsqu'on y joint l'habitude de la lecture, peut devenir extrêmement funeste. Car l'imagination est alors plus surexcitable, la sensibilité plus impressionnable, et de là, palpitations, dégoût, perte de l'appétit, le système nerveux se trouble, c'est la veille qui se change en rêve, le rêve en veille, le sommeil, s'il se présente, est perpétuellement agité par des cauchemars. Et je n'attaque pas ici, notez-le bien, le fond de la chose, qui serait d'examiner les rapports du moral et du physique, et comment la littérature et les beaux-arts se rattachent à la physiologie. Non, madame, effleurons, et voyons en passant ce que l'on trouve dans la plupart des auteurs modernes. Des cavernes, des spectres, des ruines, des cimetières, des faux-monnayeurs, des clairs de lune, que sais-je, toutes sortes de tableaux lugubres et qui prédisposent à la mélancolie. Puis ajouter que ces produits fiévreux d'imagination en délire sont entachés de néologismes, d'expressions barbares, de mots baroques, si bien qu'on est obligé de se casser la tête pour les comprendre. Car moi, je vous avoue que souvent, je ne comprends pas vos auteurs à la mode. Et je ne dis point les petits, non, mais les plus célèbres, ceux qui ont de la réputation. Et je le répète encore une fois, je ne serais pas surpris le moins du monde que ces inventions où le bon goût et les mœurs sont si audacieusement outragés ne finissent par révolutionner jusqu'à l'organisme lui-même. Tout cela, bien entendu, ne s'adresse nullement à Madame Bovary, qui certainement est une des dames que je considère le plus. Non, non, s'écriait Madame Bovary mère en agitant ses gencives aiguës. Ce que vous dites est plein de jugement, monsieur Homais. Mais ces livres dont vous parlez font voir l'existence en beau. Puis quand on arrive à la réalité, on trouve du désenchantement. Et c'est cela, j'en suis sûr. Elle enrage de savoir qu'elle n'a pas raison. Et je la connais bien. Oh oui, je la connais bien, ma belle fille. Pourtant, il ne s'agit pas de faire la mijaurée, la belle esprit. Il faut encore souffrir dans la vie. Il faut accomplir ses devoirs, il faut gouverner sa maison. Mais c'est pitoyable, vraiment. Tu devrais la surveiller, Charles. N'est-ce pas, monsieur Homais, vous qui êtes son ami? Donc, il fut résolu que l'on empêcherait Emma de lire des romans. Cette conversation animée sur les lectures néfastes de Madame Bovary est l'un des passages que Gustave Flaubert a supprimé de la version finale de son célèbre roman. Curieusement, le jugement sévère de Monsieur Homais semble présager du procès retentissant que subira le livre peu après sa publication en janvier 1857. En effet, l'acte d'accusation reprendra les mots mêmes du pharmacien « outrage aux bonnes mœurs ». Si Gustave Flaubert est finalement acquitté, contrairement à son ami Charles Baudelaire qui connaît le même procès quelques mois plus tard pour Les Fleurs du Mal, son roman Madame Bovary fait scandale. Non seulement parce que les critiques l'interprètent comme un éloge de l'adultère, mais aussi parce qu'il diagnostique une inquiétante maladie, le bovarisme. Sentiment d'insatisfaction chronique, proche du spleen de Baudelaire, le bovarisme apparaît comme la maladie des livres. Ces lectures romantiques qui, par l'exaltation du rêve et de l'imaginaire, distillent le poison de la désillusion et de la mélancolie. La semaine dernière, nous avons eu le plaisir de réécouter l'éducation sentimentale en compagnie de Fanny Ardant. Si l'éducation sentimentale est l'un des premiers projets de Flaubert, Madame Bovary est le premier roman qu'il publie et qui le rend aussitôt célèbre. Ce soir, feuilletons quelques pages de ce roman paradoxal où se côtoient l'idéal amoureux et la trivialité de l'existence. Ce roman résolument moderne qui a choqué l'opinion de son époque et qui s'est depuis imposé comme le chef-d'œuvre classique par excellence.
C'est par ici.
Ouvrons le roman et assistons à la première rencontre entre Charles Bovary, médecin de campagne, et celle qui n'est encore que la fille de l'un de ses patients.
C'est le médecin, papa.
Docteur, je me suis cassé la jambe.
Nous allons voir ça, monsieur. C'est une bonne fracture, bien franche. Je vais vous confectionner une attelle.
Tu peux faire ça, Emma.
Malgré son charme naïf, cette scène inaugurale laisse deviner les éléments du drame à venir. Alors que Charles tombe timidement amoureux, Emma fuit dans la contemplation de son jardin. Déjà, la gêne, l'ennui et un soupçon de ridicule viennent ternir leur relation. Mademoiselle Rouault ne s'amusait guère à la campagne, maintenant et surtout qu'elle était chargée presque à elle seule des soins de la ferme. Comme la salle était fraîche, elle grelottait tout en mangeant, ce qui découvrait un peu ses lèvres charnues qu'elle avait coutume de mordiller à ses moments de silence. Son cou sortait d'un col blanc rabattu, ses cheveux, dont les deux bandeaux noirs semblaient chacun d'un seul morceau, tant ils étaient lisses, étaient séparés par le milieu de la tête par une raie fine qui s'enfonçait légèrement selon la courbe du crâne. Et laissant voir à peine le bout de l'oreille, ils allaient se confondre par derrière en un chignon abondant, avec un mouvement ondé vers les tempes, que le médecin de campagne remarqua là pour la première fois de sa vie. Ses pommettes étaient roses. Elle portait, comme un homme, passé entre deux boutons de son corsage, un lorgnon d'écaille. Quand Charles, après être monté dire adieu au père Roux, rentra dans la salle avant de partir, il la trouva debout, le front contre la fenêtre, et qui regardait dans le jardin où les échalades et haricots avaient été renversés par le vent. Elle se retourna. « Cherchez-vous quelque chose ? » demanda-t-elle. « Ma cravache, s'il vous plaît, » répondit-il. Et il se mit à fureter sur le lit, derrière les portes, sous les chaises. Elle était tombée à terre entre les sacs et la muraille. Mademoiselle Emma l'aperçut. Elle se pencha sur les sacs de blé. Charles, par galanterie, se précipita, et comme il allongeait aussi son bras dans le même mouvement, il sentit sa poitrine effleurer le dos de la jeune fille, courbée sous lui. Elle se redressa tout rouge et le regarda par-dessus l'épaule, en lui tendant son air de bœuf. Au lieu de revenir au Berthaud 3 jours après, comme il l'avait promis, c'est le lendemain même qu'il y retourna. Puis 2 fois la semaine, régulièrement, sans compter les visites inattendues qu'il faisait de temps à autre, comme par mégarde. Le soir, en s'en retournant, il ne pouvait chasser de ses pensées la figure d'Emma qui revenait toujours se placer devant ses yeux, et quelque chose comme le ronflement d'une toupie bourdonnait à ses oreilles. « Si tu te mariais pourtant, si tu te mariais... » Une nuit, il ne dormit pas. Sa gorge était serrée, il avait soif. Il se leva pour aller boire à son pot à l'eau et il ouvrit la fenêtre. Le ciel était couvert d'étoiles, un vent chaud passait, au loin des chiens aboyaient. Il tourna la tête du côté des Berthaud, pensant qu'après tout, l'on ne risquait rien. Charles se promit de faire la demande quand l'occasion s'en offrirait. Mais chaque fois qu'elle s'offrit, la peur de ne point trouver les mots convenables lui collait les lèvres. Bientôt le mariage est conclu, mais pour la jeune femme, élevée au couvent et nourrie de lectures romantiques, la désillusion est amère. De tempérament romanesque, Emma aurait aimé se marier à minuit sous les étoiles, mais son père, un riche fermier, en a décidé autrement. Après une cérémonie champêtre, Emma s'installe dans la maison de Charles, dans le petit village de Tostes. Pour tromper l'ennui, elle se promène pendant de longues heures, méditant sur son sort, en compagnie d'une petite chienne. Avant qu'elle se mariât, elle avait cru avoir de l'amour. Mais le bonheur qui aurait dû résulter de cet amour n'étant pas venu, il fallut qu'elle se fût trompée, songeait-elle. Et Emma cherchait à savoir ce que l'on entendait au juste dans la vie par les mots de félicité, de passion et d'ivresse qui lui avaient paru si beaux dans les livres. Elle avait lu Paul et Virginie et elle avait rêvé la maisonnette de bambou, le nègre Domingo, le chien fidèle. Elle songeait quelquefois que c'était là pourtant les plus beaux jours de sa vie, la lune de miel, comme on disait. Pour en goûter la douceur, il eût fallu sans doute s'en aller vers ces pays à noms sonores où les lendemains de mariage ont de plus suaves paresses. Quand le soleil se couche, on respire au bord des golfes le parfum des citronniers. Puis le soir, sur la terrasse des villas, seul et les doigts confondus, on regarde les étoiles en faisant des projets. Il lui semblait que certains lieux sur la terre devaient produire du bonheur, comme une plante particulière au sol et qui pousse mal tout autre part. Au fond de son âme, cependant, elle attendait un événement. Comme les matelots en détresse, elle promenait sur la solitude de sa vie des yeux désespérés, cherchant au loin quelques voiles blanches dans les brumes de l'horizon. Elle ne savait quel serait ce hasard, le vent qui le pousserait jusqu'à elle, vers quel rivage il l'amènerait, s'il était chaloupe ou vaisseau à trois ponts, chargé d'angoisse ou plein de félicité jusqu'au sabord. Peut-être aurait-elle souhaité faire à quelqu'un la confidence de toutes ces choses, mais comment dire un insaisissable malaise qui change d'aspect comme les nuées, qui tourbillonnent dans le vent? Les mots lui manquaient donc. L'occasion, la hardiesse. À mesure que ce serait davantage l'intimité de leur vie, un détachement intérieur se faisait qui la déliait de son mari. La conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue, et les idées de tout le monde y défilaient dans leur costume ordinaire, sans exciter d'émotion, de rire ou de rêverie. Il n'avait jamais été curieux, disait-il, pendant qu'il étudiait à Rouen, d'aller voir au théâtre les acteurs de Paris. Il ne savait ni nager, ni faire des armes, ni tirer le pistolet, et il ne put un jour lui expliquer un terme d'équitation qu'elle avait rencontré dans un roman. Un homme, au contraire, ne devait-il pas tout connaître, exceller en des activités multiples, vous initier aux énergies de la passion, au raffinement de la vie, à tous les mystères? Mais il n'enseignait rien, celui-là, ne savait rien, ne souhaitait rien. Il la croyait heureuse, et elle lui en voulait de ce calme si bien assis, de cette pesanteur sereine. « Pourquoi, mon Dieu, me suis-je mariée ?» Elle se demandait s'il n'y aurait pas eu moyen, par d'autres combinaisons du hasard, de rencontrer un autre homme. Et elle cherchait à imaginer quels eussent été ces événements non survenus, cette vie différente, ce mari qu'elle ne connaissait pas. Tous, en effet, ne ressemblaient pas à celui-là. Il aurait pu être beau, spirituel, distingué, attirant, tel qu'ils étaient sans doute ceux qu'avaient épousé ses anciennes camarades du couvent. Que faisait-elle maintenant? À la ville, avec le bruit des rues, le bourdonnement des théâtres et les clartés du bal, elles avaient des existences où le cœur se dilate, où les sens s'épanouissent. Mais elle, sa vie était froide comme un grenier dont la lucarne est au nord, et l'ennui, araignée silencieuse, filait sa toile dans l'ombre à tous les coins de son cœur. Le soleil se couchait, le ciel était rouge entre les branches, une peur la prenait. Elle appelait sa petite chienne, s'en retournait vite à Tostes par la grande route, s'affaissait dans un fauteuil, et de toute la soirée ne parlait pas. Mais vers la fin de septembre, quelque chose d'extraordinaire tomba dans sa vie.
Emma ! Emma !
Tu te souviens du marquis d'Andervilliers ? Celui qui avait ton abcès à la bouche. Figure-toi que il nous invite à son bal.
C'est vrai ? C'est bien vrai ?
Mais oui, puisque je te le dis, c'est dans 15 jours.
Oh ! Charles ! Dis-moi, mon Charles, j'aurai une belle toilette, dis-moi.
Bien sûr, bien sûr.
Que le silence s'incline. Je veux du bruit et des gens. À ces pensées assassines, enlevées. réciproque, mon cœur se remplit d'un orage qui déchire le cours de la vie, d'un orage qui déchire le cours de la vie.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Et voici que son rêve de jeune fille se réalise, entrer dans le grand monde. Nous voici le soir de la réception. Tel un papillon de nuit, Emma se brûle les ailes au contact d'un monde qui n'est pas le sien. Elle descendit l'escalier, se retenant de courir. Les quadrilles étaient commencées, il arrivait du monde, on se poussait. Elle se plaça près de la porte sur une banquette. Sur la ligne des femmes assises, les éventails peints s'agitaient, les bouquets cachaient à demi le sourire des visages. Les garnitures de dentelles, les broches de diamants, les bracelets à médaillons frissonnaient au corsage, scintillaient aux poitrines, bruissaient sur les bras nus. Le cœur d'Emma lui battit un peu lorsque, un cavalier la tenant par le bout des doigts, elle vint se mettre en ligne et attendit le coup d'archet pour partir. Mais bientôt l'émotion disparut. Un sourire lui monta aux lèvres. Autour d'elle, les pieds retombaient en mesure, les jupes se bouffaient, se frôlaient, les mains se donnaient, se quittaient. Les mêmes yeux, s'abaissant devant vous, revenaient se fixer sur les vôtres. À trois pas d'Emma, un cavalier en habit bleu causait Italie avec une jeune femme pâle, portant une parure de perles. Il vantait la grosseur des piliers de Saint-Pierre, Tivoli, le Vésuve, Castelmar et les roses de Gênes, le Colisée au clair de lune. Emma écoutait cette conversation pleine de mots qu'elle ne comprenait pas. L'air du bal était lourd, les lampes pâlissaient. Un domestique monta sur une chaise et cassa deux vitres. Au bruit des éclats de verre, Madame Bovary tourna la tête et aperçut dans le jardin, contre les carreaux, des faces de paysans qui regardaient. Alors le souvenir des Berthaud lui arriva. Elle revit la ferme, la mare boueuse, son père en blouse sous les pommiers, et elle se revit elle-même, comme autrefois, écrémant avec son doigt les terrines de lait dans la laiterie. Mais aux fulgurations de l'heure présente, sa vie passée, si nette jusqu'alors, s'évanouissait tout entière, et elle doutait presque de l'avoir vécue. Elle était là, puis autour du bal. Il n'y avait plus que de l'ombre étalée sur tout le reste. À 3 heures du matin, le cotillon commença. Emma ne savait pas valser. Tout le monde valsait. Mademoiselle d'Andervilliers elle-même et la marquise. Il n'y avait plus que les hôtes du château, une douzaine de personnes à peu près. Au milieu du salon, une dame assise sur un tabouret avait devant elle 3 valseurs agenouillés. Elle choisit le vicomte et le violon recommença. On les regardait. Ils passaient et revenaient, elle la taille cambrée. Elle savait valser celle-là. Ils continuèrent longtemps et fatiguèrent tous les autres. On causa quelques minutes encore, et après les adieux, ou plutôt le bonjour, les hôtes du château s'allèrent coucher. Charles se traînait à la rampe. Les genoux lui rentraient dans le corps. Il avait passé 5 heures de suite, tout debout devant les tables, à regarder jouer au whist sans y rien comprendre. Aussi poussa-t-il un grand soupir de satisfaction lorsqu'il eut retiré ses bottes. Emma mit un châle sur ses épaules, ouvrit la fenêtre et s'accouda. La nuit était noire. Elle aspira le vent humide qui lui rafraîchissait les paupières. La musique du bal bourdonnait encore à ses oreilles et elle faisait des efforts pour se tenir éveillée afin de prolonger l'illusion de cette vie luxueuse qu'il lui faudrait tout à l'heure abandonner. Le petit jour parut. Elle regarda les fenêtres du château, longuement, tâchant de deviner quelles étaient les chambres de tous ceux qu'elle avait remarqués la veille. Elle aurait voulu savoir leur existence, y pénétrer, s'y confondre. Mais elle grelottait de froid. Elle se déshabilla et se blottit entre les draps contre Charles qui dormait. Après le bal, Emma retourne à son existence morne et tombe malade d'ennui. Une année a passé. Le marquis n'a pas renouvelé son invitation. Souffrant d'apathie et de troubles nerveux, Emma convainc Charles de quitter la campagne pour la petite ville de Yonville. Mais la promesse d'une vie nouvelle ne se réalise pas exactement selon ses vœux.
Bonsoir, monsieur Homais.
Monsieur Bovary, madame, je suis monsieur Homais, votre pharmacien. J'espère que vous avez fait bon voyage. Et je suis très heureux de vous accueillir dans notre chère Yonville.
Charles était triste. La clientèle n'arrivait pas. Il demeurait assis pendant de longues heures, sans parler, allait dormir dans son cabinet ou regardait coudre sa femme. Les affaires d'argent le préoccupaient. Il en avait tant dépensé pour les toilettes de madame et pour le déménagement que toute la dot, plus de 3 000 écus, s'était écoulée en 2 ans. Un souci meilleur vint le distraire, à savoir la grossesse de sa femme. À mesure que le terme en approchait, il la chérissait davantage. C'était un autre lien de la chair s'établissant, et comme le sentiment continu d'une union plus complexe. Quand il voyait de loin sa démarche paresseuse et sa taille tournée mollement sur ses hanches sans corset, quand vis-à-vis l'un de l'autre il la contemplait tout à l'aise et qu'elle prenait, assise, des poses fatiguées dans son fauteuil, alors son bonheur ne se tenait plus. Il se levait, il l'embrassait, passait ses mains sur sa figure, l'appelait « petite maman », voulait la faire danser et débitait, moitié riant, moitié pleurant, toutes sortes de plaisanteries caressantes qui lui venaient à l'esprit. L'idée d'avoir engendré le délectait. Rien ne lui manquait à présent. Il connaissait l'existence humaine tout du long et il s'y attablait sur les 2 coudes avec sérénité. Emma d'abord sentit un grand étonnement, puis eut envie d'être délivrée pour savoir quelle chose c'était que d'être mère. Mais ne pouvant faire les dépenses qu'elle voulait, avoir un berceau en nacelle avec des rideaux de soie rose et des béguins brodés, elle renonça au trousseau dans un accès d'amertume et le commanda d'un seul coup à une ouvrière du village sans rien choisir ni discuter. Elle ne s'amusa donc pas à ces préparatifs où la tendresse des mères se met en appétit, et son affection dès l'origine en fut peut-être atténuée de quelque chose. Cependant, comme Charles à tous les repas parlait du marmot, bientôt elle y songea d'une façon plus continue. Elle souhaitait un fils. Il serait fort et brun. Elle l'appellerait Georges. Et cette idée d'avoir pour enfant un mâle était comme la revanche en espoir de toutes ses impuissances passées. Un homme, au moins, est libre. Il peut parcourir les passions et les pays, traverser les obstacles, mordre au bonheur les plus lointains. Mais une femme est empêchée continuellement. Inerte et flexible à la fois, elle a contre elle les mollesses de la chair avec les dépendances de la loi. Sa volonté, comme le voile de son chapeau retenu par un cordon, palpite à tous les vents. Il y a toujours quelque désir qui entraîne, quelque convenance qui retient. Elle accoucha un dimanche vers 6 heures, au soleil levant. « C'est une fille !» dit Charles. Elle tourna la tête et s'évanouit.
« Les cultivateurs sont à plaindre, vous savez. »
Il n'y a pas que.
Ah, certes. Les ouvriers des villes, par exemple.
Mais les femmes...
Non, ça, c'est bien vrai. J'ai connu des mères de famille qui manquaient même de pain.
Mais toutes celles, monsieur le curé, toutes celles qui ont du pain et qui n'ont pas...
Qui n'ont pas de feu l'hiver.
Oh, qu'importe.
Mais comment qu'importe? Mais il me semble que lorsqu'on est bien chauffé, bien nourri, les choses... Ça va pas? Oh, c'est un problème de digestion. Mais faut rentrer chez vous, madame Bovary, et prendre une bonne tasse de thé.
Mais non, mais non.
J'ai cru qu'un étourdissement vous prenait. Mais vous me demandiez quelque chose, qu'est-ce donc? Je sais plus.
Rien. Rien.
Alors, vous m'excusez, Madame Bovary, mais il faut que j'expédie mes gardes. Bonne santé, madame, mes respects à monsieur votre mari.
Délaissant son rôle d'épouse et de mère, Emma connaît bientôt l'exaltation de la passion amoureuse. Outre leur voisin, le pharmacien Homais, Emma fait la connaissance d'un jeune clerc de notaire, Léon Dupuis. Partageant les mêmes goûts pour la lecture et la musique, ils font de longues promenades en tête à tête. Mais Léon, trop timide, n'ose déclarer sa flamme. Par dépit, il décide de partir pour Paris. De tristesse, Emma tombe à nouveau malade. Sous prétexte que le grand air lui ferait du bien, Charles l'incite à faire des promenades à cheval avec un certain Rodolphe Boulanger, un riche voisin qui se propose de lui prêter une monture. Emma succombe au charme du châtelain, qui se révèle un séducteur sans scrupules. Ils descendirent. Rodolphe attacha les chevaux. Elle allait devant sur la mousse, entre les ornières, et Rodolphe, marchant derrière elle, contemplait entre la robe et la bottine noire la délicatesse de son bas blanc qui lui semblait quelque chose de sa nudité. 100 pas plus loin, elle s'arrêta. Elle respirait d'une façon saccadée. Rodolphe jetait les yeux autour de lui et se mordait la moustache. Ils s'assirent sur un tronc d'arbre renversé et Rodolphe se mit à lui parler de son amour. Emma l'écoutait la tête basse. Est-ce que nos destinées maintenant ne sont pas communes ? Eh non, répondit-elle. Vous le savez bien, c'est impossible. Elle se leva pour partir. Il la saisit au poignet. Elle s'arrêta. Puis, l'ayant considéré quelques minutes d'un œil amoureux et tout humide, elle dit vivement « Ah, tenez, n'en parlons plus. Où sont les chevaux? Retournons. » Il eut un geste de colère et d'ennui. Puis, souriant d'un sourire étrange et la prunelle fixe, les dents serrées, il s'avança en écartant les bras. Elle se recula tremblante. Elle balbutiait « Oh, vous me faites peur !» Vous me faites mal, partons, puisqu'il le faut, reprit-il en changeant de visage. Et il redevint aussitôt respectueux, caressant, timide. Elle lui donna son bras, ils s'en retournèrent. Il disait : Vous vous méprenez sans doute. Vous êtes dans mon âme comme une madone sur un piédestal, à une place haute, solide et immaculée. Mais j'ai besoin de vous pour vivre. J'ai besoin de vos yeux, de votre voix, de votre pensée. Soyez mon ami, ma sœur, mon ange. Et il allongeait le bras et lui en entourait la taille. Elle tâchait de se dégager mollement. « Oh, encore, dit Rodolphe, ne partons pas, restez. » Il l'entraîna plus loin, autour d'un petit étang. Des nénuphars flétris se tenaient immobiles entre les joncs. Au bruit de leurs pas dans l'herbe, des grenouilles sautaient pour se cacher. « J'ai tort, disait-elle, je suis folle de vous entendre. Pourquoi ? Emma, Emma !» Oh, Rodolphe, fit lentement la jeune femme en se penchant sur son épaule. Le drap de sa robe s'accrochait au velours de l'habit. Elle renversa son cou blanc qui se gonflait d'un soupir. Et défaillante, tout en pleurs, avec un long frémissement et se cachant la figure, elle s'abandonna. Les ombres du soir descendaient, le soleil horizontal passant entre les branches lui éblouissait les yeux. Ça et là, tout autour d'elle, dans les feuilles ou par terre, des taches lumineuses tremblaient, comme si des colibris en volant eussent éparpillé leurs plumes. Le silence était partout. Quelque chose de doux semblait sortir des arbres. Rien autour d'eux n'avait changé, et pour elle, cependant, quelque chose était survenu de plus considérable que si les montagnes se fussent déplacées.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Dans les jardins sans lune où je m'endors, où j'ai la voix cassée, où l'âme se consume juste au bord de l'ivresse. Dans la jungle insolente où je ressasse mes ténébreuses pensées, je vous attends et je me glace, mais viendrez-vous jamais, amoureuse de vous, amoureuse de vous. Le long du précipice où je m'égare, où j'aime à m'attarder, je plonge avec délice dans vos regards. Brune, je les ai oubliées, enterrées dans les dunes, les dunes, les dunes, pour mieux recommencer. Amoureuse de vous, amoureuse de vous, amoureuse de vous.
Mais les passions sont éphémères. Alors qu'Emma rêve de s'enfuir avec Rodolphe, celui-ci finit par se lasser et lui adresse une lettre de rupture.
Du courage, Emma. Du courage. Je ne veux pas faire le malheur de votre existence. Savez-vous l'abîme où je vous entraînais, pauvre ange ? Oh, Emma, oubliez-moi. Pourquoi faut-il que je vous ai connue ? Pourquoi étiez-vous si belle ? Est-ce ma faute ? Oh, mon Dieu, non, non. N'en accusez que la fatalité. Le monde est cruel, Emma. Partout où nous eussions été, il aurait fallu subir les questions indiscrètes, la calomnie, l'outrage, peut-être. Je serai loin quand vous lirez ces tristes lignes, car j'ai voulu m'enfuir au plus vite afin d'éviter la tentation de vous revoir. Adieu. Votre ami Rodolphe.
Emma succombe à une crise de nerfs qui la tient alitée pendant 40 jours, exigeant des soins qui font la fortune de Monsieur Homais. Un jour, Charles décide d'emmener sa femme à Rouen pour lui changer les idées. À la sortie d'un théâtre, il retrouve Léon, devenu premier clerc. Bientôt, Emma et le jeune homme entretiennent une relation secrète. Sous prétexte de prendre des cours de musique, Emma se rend une fois par semaine en ville. La ville alors s'éveillait. Emma sortait de l'hirondelle. Par peur d'être vue, elle ne prenait pas ordinairement le chemin le plus court. Elle s'engouffrait dans les ruelles sombres et elle arrivait tout en sueur dans le quartier du théâtre, des estaminets et des filles. On sentait l'absinthe, le cigare et les huîtres. Elle tournait une rue. Elle le reconnaissait à sa chevelure frisée qui s'échappait de son chapeau. Léon, sur le trottoir, continuait à marcher. Elle le suivait jusqu'à l'hôtel. Il montait, ouvrait la porte, il entrait. Quelle étreinte! Puis les paroles après les baisers se précipitaient. On se racontait les chagrins de la semaine, les pressentiments, les inquiétudes pour les lettres. Mais à présent, tout s'oubliait. Et ils se regardaient face à face, avec des rires de volupté et des appellations de tendresse. Le lit était un grand lit d'acajou en forme de nacelle. Les rideaux de levantine rouge descendaient du plafond et se cintraient vers le chevet évasé. Mais rien n'était beau comme sa tête brune et sa peau blanche se détachant sur cette couleur pourpre, quand, par un geste de pudeur, elle fermait ses bras nus en se cachant la figure dans les mains. Le tiède appartement avec son tapis discret, ses ornements folâtres et sa lumière tranquille semblait tout commode pour les intimités de la passion. Comme ils aimaient cette bonne chambre pleine de gaieté, malgré sa splendeur un peu fanée. Ils étaient si complètement perdus en la possession d'eux-mêmes qu'ils se croyaient là dans leur maison particulière et devant y vivre jusqu'à la mort comme deux éternels jeunes époux. Léon savourait pour la première fois l'inexprimable délicatesse des élégances féminines. Jamais il n'avait rencontré cette grâce du langage, cette réserve du vêtement, ces poses de colombe assoupie. Il admirait en Emma l'exaltation de son âme et les dentelles de sa jupe. D'ailleurs, n'était-ce pas une femme du monde et une femme mariée, une vraie maîtresse enfin? Par la diversité de son humeur, tour à tour mystique et joyeuse, babillarde, taciturne, emportée, nonchalante, elle allait rappelant en lui mille désirs, évoquant des instincts ou des réminiscences. Elle était l'amoureuse de tous les romans, l'héroïne de tous les drames, le vague, elle, de tous les volumes de vers. Il retrouvait sur ses épaules les couleurs ambrées de l'odalisque au bain. Elle avait le corsage long des châtelaines féodales. Elle ressemblait aussi à la femme pâle de Barcelone, mais elle était par-dessus tout son ange à lui. Hélas, le bonheur ne dure pas et la passion conduit Emma à sa perte. Ce train de vie finit par causer la ruine du couple Bovary. Emma et Charles, chacun de leur côté, ont multiplié les reconnaissances de dettes. Emma pour couvrir son amant de cadeaux et Charles pour subvenir aux besoins de leur fille. Un jour, une affiche est placardée sur la place, annonçant la saisie de leurs biens. Affolée, Emma tente de trouver de l'argent auprès de ses amis. Elle se compromet auprès du percepteur et tente de séduire à nouveau Rodolphe.
Je suis ruinée, Rodolphe. J'ai besoin de 3000 francs.
Je ne les ai pas, chère madame.
Tu ne m'as jamais aimée, tu ne veux pas mieux que les autres. Mais quand on n'a pas d'argent, on n'achète pas une pendule avec des incrustations d'écailles, ni des breloques pour sa montre. Rien ne te manque. Il me repousse parce que ça lui coûterait 3000 francs.
Je ne les ai pas.
La voilà acculée à ses fautes, à ses remords. Qu'importe, elle n'était pas heureuse, ne l'avait jamais été. D'où venait donc cette insuffisance de la vie, cette pourriture instantanée des choses où elle s'appuyait? Tout mentait. Chaque sourire cachait un bâillement d'ennui, chaque joie une malédiction, tout plaisir son dégoût. Et les meilleurs baisers ne vous laissaient sur la lèvre qu'une irréalisable envie d'une volupté plus haute. Le désappointement de l'insuccès renforçait l'indignation de sa pudeur outragée. Il lui semblait que la Providence s'acharnait à la poursuivre. Quelque chose de belliqueux la transportait. Elle aurait voulu battre les hommes, leur cracher au visage, les broyer tous. Et elle continuait à marcher rapidement devant elle, pâle, frémissante, enragée, furetant d'un œil en pleurs l'horizon vide et comme se délectant de la haine qui l'étouffait. Puis, 100 pas plus loin, essoufflée, près de tomber, elle s'arrêta. Elle resta perdue de stupeur. Tout ce qu'il y avait d'idées dans sa tête, de réminiscences, s'échappait à la fois d'un seul bond, comme les 1000 pièces d'un feu d'artifice. Elle revit son père, le cabinet du prêteur, leur chambre là-bas, un autre paysage. La folie la prenait, elle eut peur et parvint à se ressaisir d'une manière confuse, il est vrai, car elle ne se rappelait point la cause de son horrible état, c'est-à-dire la question d'argent. Elle ne souffrait que de son amour et sentait son âme l'abandonner par ce souvenir, comme les blessés en agonisant sentent l'existence qui s'en va par leurs plaies qui saignent. Elle reconnut les lumières des maisons qui rayonnaient au loin dans le brouillard. Alors sa situation, telle qu'un abîme, se présenta. Elle haletait à se rompre la poitrine. Puis, dans un transport d'héroïsme qui la rendait presque joyeuse, elle descendit la côte en courant, traversa le sentier, les halles, et arriva devant la boutique du pharmacien. Il n'y avait personne. Elle allait entrer, mais au bruit de la sonnette, on pouvait venir. Et retenant son haleine, tâtant les murs, elle s'avança jusqu'au seuil de la cuisine où brûlait une chandelle posée sur le fourneau. Justin, le commis, en manche de chemise, emportait un plat. « Ah, il dîne. Attendons, attendons. » Il revint. Elle frappa contre la vitre. Il sortit. « La clé, celle d'en haut. Où sont les... Comment ? » s'écria-t-il. Et il la regardait, tout étonné par la pâleur de son visage qui tranchait en blanc sur le fond noir de la nuit. Elle lui apparut extraordinairement belle et majestueuse comme un fantôme. Sans comprendre ce qu'elle voulait, il pressentait quelque chose de terrible. Elle prétendit avoir besoin de tuer les rats qui l'empêchaient de dormir. « Il faudrait que j'avertisse monsieur, » dit-il. « Non, ce n'est pas la peine, je lui dirai tantôt. Allons, éclaire-moi, » supplia-t-elle. Elle entra dans le corridor où s'ouvrait la porte du laboratoire. « Justin !» cria l'apothicaire qui s'impatientait dans la salle à manger. « Vite, montons !» murmura Emma. Et il la suivit. La clé tourna dans la serrure et elle alla droit vers la troisième tablette, tant son souvenir la guidait bien, saisit le bocal bleu, en arracha le bouchon, y fourra sa main et la retirant pleine d'une poudre blanche, elle se mit à manger à même. « Arrêtez !» s'écria Justin en se jetant sur elle. « Tais-toi, on viendrait !» Il se désespérait, voulait appeler. Ce pauvre garçon la chérissait en secret. « N'en dis rien, tout retomberait sur ton maître !» menaça-t-elle en tournant vers lui des yeux exorbités. Puis elle s'en retourna subitement apaisée et presque dans la sérénité d'un devoir accompli. Et voici pour conclure l'épilogue du drame. Après s'être empoisonnée, Emma rentre chez elle et meurt dans d'atroces souffrances. À son chevet, Charles délire d'amour et continue à s'endetter pour lui offrir un enterrement luxueux. Des mois plus tard, il vit prostré chez lui, auprès de sa fille, et ne pratique plus la médecine. Par respect ou par une sorte de sensualité qui lui faisait mettre de la lenteur dans ses investigations, Charles n'avait pas encore ouvert le compartiment d'un bureau de palissandre dont Emma se servait habituellement. Un jour, enfin, il s'assit devant, tourna la clé et poussa le ressort. Toutes les lettres de Léon s'y trouvaient. Il dévora jusqu'à la dernière, fouilla tous les coins, tous les meubles, tous les tiroirs, derrière les murs, sanglotant, hurlant, éperdu, fou. Il découvrit une boîte, la défonça d'un coup de pied. Le portrait de Rodolphe lui sauta en plein visage au milieu des billets doux conservés. On s'étonna de son découragement. Il ne sortait plus, ne recevait personne, refusait même d'aller voir ses malades. Alors on prétendit qu'il s'enfermait pour boire. Le soir, dans l'été, il prenait avec lui sa petite fille et la conduisait au cimetière. Il s'en revenait à la nuit close. Un jour qu'il était allé au marché d'Argueil pour y vendre son cheval, dernière ressource, il reconnut Rodolphe. Ils pâlirent en s'apercevant. Rodolphe, qui avait seulement envoyé sa carte, balbutia d'abord quelques excuses, puis s'enhardit et poussa même l'aplomb, il faisait très chaud, on était au mois d'août, jusqu'à l'inviter à prendre une bouteille de bière au cabaret. Accoudé en face de lui, il mâchait son cigare tout en causant, et Charles se perdait en rêverie devant cette figure qu'elle avait aimée. Il lui semblait revoir quelque chose d'elle. C'était un émerveillement. Il aurait voulu être cet homme. « Je ne vous en veux pas, » dit-il. Rodolphe était resté muet. Et Charles, la tête dans ses deux mains, reprit d'une voix éteinte et avec l'accent résigné des douleurs infinies. « Non, je ne vous en veux plus. » Il ajouta même un grand mot, le seul qu'il ait jamais dit. C'est la faute de la fatalité. Rodolphe, qui avait conduit cette fatalité, le trouva bien débonnaire pour un homme dans sa situation, comique même, et un peu vil. Le lendemain, Charles alla s'asseoir sur le banc au fond de son jardin sous la tonnelle. Le jour passait par le treillis, Le ciel était bleu et Charles suffoquait comme un adolescent sous les vagues effluves qui gonflaient son cœur chagrin. À 7 heures, la petite Berthe, qu'il ne l'avait pas vue de toute l'après-midi, vint le chercher pour dîner. Il avait la tête renversée contre le mur, les yeux clos, la bouche ouverte, et tenait dans ses mains une longue mèche de cheveux noirs. « Papa, viens donc !» dit-elle. Et croyant qu'il voulait jouer, elle le poussa doucement. Il tomba par terre. Il était mort.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission, réalisée par Xavier Pestugia avec Manuel Couturier à la technique, a été préparée par Estelle Gap, Laura Elmaki et Irène Menahem. Merci à vous, bonne soirée et à la semaine prochaine.